This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Le travail à distance est parfois poussé à l'extrême. Je me souviens d'une visite dans une entreprise de la Silicon Valley. La réceptionniste m'accueille via un écran. Elle me dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Qui venez-vous voir ?» Évidemment, je m'enregistre comme il faut, via une tablette, et je lui demande si elle est dans l'immeuble. Elle me répond « Pas du tout, je suis à Cleveland, dans l'Ohio, et ma collègue qui me remplace est à Baltimore. » C'était en 2018. Depuis, le télétravail a explosé, principalement sous l'impulsion du Covid. Les bureaux se sont vidés, les termes « Zoom » et « Visio » sont entrés dans le langage courant. L'entreprise éparpillée a aussi ses pionniers. L'un d'eux est Frédéric Play, que je connais depuis plusieurs années, mais que je n'avais jamais rencontré en personne. C'est enfin le cas pour cet épisode de Contrôle F. Frédéric est basé à Los Angeles et gère aujourd'hui Plateforme SH, qu'il a créé en 2015, donc bien avant la pandémie. Sa société de logiciels emploie 330 personnes réparties dans 35 pays et sur une demi-douzaine de fuseaux horaires. L'entreprise n'a donc ni siège social, ni bureau principal. Elle est sans doute l'une des rares à avoir poussé aussi loin ce concept de décentralisation. De plus, alors que beaucoup doutaient de la capacité de ce modèle à supporter la croissance, Plateforme SH ne cesse de grandir. Comment cette organisation fonctionne-t-elle au quotidien ? Quelles sont les difficultés inhérentes à ce concept ? On en parle aujourd'hui avec Frédéric Play, en personne, dans le studio de l'Express. C'est parti ! Bonjour Frédéric.
Bonjour Fred.
On va commencer par le commencement. Je voudrais que tu nous expliques ce que fait Plateforme.sh, qui est donc... L'entreprise est basée à San Francisco, toi tu es basé à Los Angeles, et elle est déployée dans le monde entier. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Explique-nous ce que vous faites exactement.
Plateforme.sh fait partie de la famille du cloud. Et dans le cloud, il y a beaucoup d'acronymes, comme tu le sais. Et nous, on est ce qu'on appelle un PaaS, donc une plateforme as a service. Sa vocation, c'est de permettre aux développeurs de développer leurs applications sans avoir besoin de gérer l'ensemble de l'infrastructure cloud. Donc on apporte des outils de productivité aux développeurs pour qu'ils puissent fabriquer leurs applications en passant beaucoup moins de temps et en allant beaucoup plus vite.
Ça s'adresse à quel type d'entreprise ?
À tout type d'entreprise. On a à la fois des startups et des grandes marques qui ont effectivement beaucoup de marques aussi et beaucoup de sites web du coup à déployer, soit des universités, soit tout autre type de business. Les applications prolifèrent d'une manière générale. Les entreprises ont souvent besoin d'une application pour un usage et donc cette multiplication fait que le management de ces applications sur le cloud est devenu particulièrement compliqué et on apporte en fait du temps gagné, de l'efficacité à ces équipes et c'est significatif parce que parfois c'est 50%, 75% de temps gagné sur le temps passé sur le cloud.
Combien de clients vous avez aujourd'hui ?
On a à peu près 3500 clients en direct plus des channels, donc avec les channels on est à presque 8000 maintenant.
L'entreprise a été créée en 2015. Est-ce que dès le départ, tu avais voulu et tu avais eu l'intuition du fait que l'entreprise devait être décentralisée ?
Oui, en fait, on l'a un peu subi. En 2015, on avait une vision assez claire sur ce qu'on voulait faire sur le cloud et une complexité incroyable, infinie à recruter. À l'époque, on était sur deux localisations, la France et San Francisco, donc Paris-San Francisco. Et dans les deux villes, les développeurs dont on avait besoin, ces gens-là, en fait, on ne les trouvait pas. Ils étaient tous dans des startups plus visibles que nous. On était petits, on n'était pas connus. À l'époque, ils allaient en France chez Blablacar et chez Criteo.
Ah oui, oui.
Et c'était la guerre pour trouver des développeurs.
Et donc, c'était un choix pragmatique qui a été dicté par les circonstances.
Exactement. Par contrainte, on s'est dit, bon, on va élargir le pool de candidats qu'on peut trouver. Et en fait, on s'est dit, on prend pas de contraintes, on prend les gens là où ils sont. On était un peu désinhibés aussi, nous, l'équipe de management, par rapport à ces pratiques, parce que on avait beaucoup, beaucoup baigné dans l'open source, où déjà, depuis
déjà, où les gens
30 ans, peut-être, tout le monde travaillait en remote. Donc, on se disait que ça marchait, on l'avait vu fonctionner. Mon CTO était aussi tenté de se relocaliser à Montpellier à l'époque.
Oui.
Donc en fait, tout ça faisait qu'on était assez désinhibés par rapport à l'idée de faire du remote. Et on a embrassé le modèle, j'ai envie de dire, de façon assez franche, en 2015, très vite.
Est-ce qu'il y a des fondamentaux en termes d'architecture de l'entreprise que vous avez dû mettre en place dès le départ pour qu'elle puisse croître et embellir avec cette particularité ?
Absolument, et je pense que ce qu'on a mis en place va surprendre personne, parce qu'aujourd'hui, après 2 ans de Covid, tout le monde a expérimenté du travail à distance, mais le premier sujet, c'est de pas avoir 2 classes de salariés, ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ceux qui ont l'information, ceux qui n'ont pas l'information. Donc le premier sujet, c'est comment est-ce qu'on partage bien l'information pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité et qu'il n'y ait pas une espèce de first class citizen versus des gens qui sont toujours à la traîne, parce que ça crée une frustration et ça ne marche pas.
Ça crée des inégalités, des frustrations.
Donc il faut réussir à niveler en fait le niveau d'information, faire en sorte qu'il soit bien, que l'information circule, qu'elle soit bien partagée. Et donc ça, c'est le premier point de complexité. Ça nécessite d'avoir à la fois les bons outils pour les communications du jour le jour, les informations qui doivent circuler. Il faut les outils aussi pour communiquer. Il faut que les équipes soient habituées à chaque fois qu'elles font une réunion, éviter de le faire à côté de la machine à café, entre personnes qui sont présentes au bureau, mais qu'elles le fassent sans oublier les gens qui sont aussi en remote. Donc un meeting égale un Zoom ou un Meet ou peu importe quel outil les gens utilisent. Mais ça, c'était un des principes de départ. Et puis surtout, avoir une documentation organisée où tous les playbooks,
toute la mémoire de l'entreprise et son évolution sont documentées.
Toute la documentation doit être absolument privilégiée et accessible à tous tout de suite, tout le temps.
Quelle est la typologie des salariés qu'on recrute pour être certain qu'ils soient compatibles et qu'ils soient heureux dans un modèle de travail à distance?
Alors ça aussi, ça s'est élargi parce que nous, traditionnellement, on préférait prendre des gens qui avaient déjà une expérience remote.
Ah ok.
Et on le trouvait.
D'accord.
On le trouvait déjà à l'époque, en 2015, ça veut dire qu'il y avait déjà un écosystème un peu de gens remote. On prenait pas que des gens qui avaient été remote, mais à minima des gens qui sont assez seniors finalement.
Ah oui.
Donc,
vous avez une moyenne d'âge un petit peu plus élevée que...
Ouais, on est à 36 ans, je crois.
Ah, mais c'est beaucoup.
Donc c'est beaucoup, 35 ans maintenant, je crois qu'on a réussi à faire un petit peu baisser. Mais la réalité, c'est qu'on prend des gens qui sont expérimentés parce que... Moi, je ne conseillerais pas à un junior de commencer par un job remote.
Oui.
C'est bien mieux d'avoir des pairs, des gens qui...
Des interactions quotidiennes.
Qui vont vous inspirer, avec qui vous êtes au jour le jour présent. Vous allez pouvoir comprendre comment on se comporte dans une entreprise. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout évidentes quand on sort de l'école ou de l'université. C'est des gens qui sont plutôt expérimentés, qui souvent ont fondé une famille.
Ah oui?
Oui, parce que une des motivations à faire du remote, c'est d'avoir plus d'espace et de trouver un endroit qui soit agréable pour une famille, avec un jardin.
Surtout dans la Silicon Valley ou dans les centres de tech, dans les grandes villes de tech où le logement est absolument hors de prix.
Mais c'est vrai pour beaucoup de Parisiens aussi qui, au bout d'un moment, ont envie de voir un peu la nature ou la mer. Et donc, ils trouvent que c'est une très bonne façon de continuer à avoir un job motivant, tout en ayant en fait une vie de famille quand même plus aboutie et plus facile aussi. Souvent des gens qui sont effectivement qui ont une famille avec des enfants à jeune âge et des gens expérimentés et autonomes, parce que il faut une vraie autonomie pour travailler en remote. Faut aussi avoir une motivation personnelle,
une vraie discipline
qui passe par la discipline, exactement. Oui. Ça c'est quand même des choses qu'on regardait systématiquement, qu'on a toujours regardé. On veut trouver les bonnes motivations entre guillemets au remote.
Quels sont les challenges que vous n'aviez pas anticipés et que vous êtes pris dans la figure quand vous avez lancé l'entreprise?
Les gens parlent souvent beaucoup de la culture. Je pense que c'est assez juste. Je pense qu'en fait, un des enjeux, c'est de créer une culture qui inspire les gens, qui les motive. Ça a été un des sujets de stress pour moi. D'ailleurs, au moment où on a créé l'entreprise, je me disais, mais est-ce qu'on va réussir à avoir une entreprise un peu uniforme? Et finalement, ça s'est bien passé. Moi, c'est la 4e entreprise que je crée, Plateforme SH. C'est sur les 4 que j'ai créées, c'est celle avec la plus forte culture. Et elle est 100% remote.
D'accord.
Donc, c'est possible. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre ça au cœur aussi de la communication.
Et comment on développe une culture, comment on développe une proximité lorsque les gens sont sur 6 ou 7 fuseaux horaires, sont plus de 300 dans 20 pays, même si l'anglais est un grand uniformisateur? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous avez mises sur votre plateforme pour que les gens puissent interagir de façon un peu plus ordinaire?
Je crois que ça commence par être clair sur la mission, être clair sur les valeurs aussi, être assez intransigeant sur les valeurs en réalité, les répéter souvent, faire en sorte qu'elles soient appliquées dans l'entreprise et donc avoir une forme de discipline aussi sur le fait qu'elle soit appliquée. Et puis ça passe par la communication de tous les jours.
Mais justement, à quoi ressemble ta journée? Je me suis toujours demandé ça. Donc tu es à Los Angeles, tu te lèves le matin, je crois que tu es assez matinal.
Je suis très matinal parce que comme on a des équipes très internationales et plutôt sans, enfin, et entre les US et l'Europe, toutes les réunions d'équipe sont entre 6h du matin, parfois 5h30 et 10h du matin.
Ah, okay.
Donc j'ai une espèce de moment de très très forte pression là, qui dure 4h30 tous les jours. Et après, c'est plus simple. Après, je passe à mes calls US. J'en ai plutôt moins. Et à 14h, j'essaie de plus avoir de calls pour pouvoir travailler sur des choses plus long terme que juste de la communication. Mais c'est beaucoup, beaucoup de calls et puis beaucoup de voyages, en fait, parce que je voyage aussi régulièrement pour aller à des conférences, pour aller voir les équipes.
Quand on s'était parlé la première fois, c'était en 2020. Tu avais l'air de buter pas mal sur les questions de, dans votre jargon, on dit onboarding, c'est-à-dire, si ma traduction est correcte, l'intégration des jeunes recrues. Vous aviez des questions aussi sur le burn-out, et la propension des gens à travailler trop, ou en tout cas à ne plus avoir d'horaire. Comment tout ça a évolué à mesure que l'entreprise a évolué? Puisqu'on s'est parlé, vous étiez moitié plus petit.
On était en train de très fortement accélérer en recrutement. Donc la question du onboarding était d'autant plus importante qu'on était passé d'un rythme de une ou deux personnes par mois à 5-6 par mois. Et ça va très très vite, 5-6 par mois.
C'est énorme.
Ça va très très vite. Et donc on avait effectivement des problèmes de montée à l'échelle qu'on a résolus. On a maintenant un bon programme de onboarding, ça se fait très très bien. Le onboarding à distance, il faut être organisé. Il faut une équipe ressources.
Par exemple, le recrutement, quand vous avez... est-ce que vous êtes plutôt, d'ailleurs, en mode vous-même d'acquisition un peu, je dirais, offensive, c'est-à-dire que vous repérez des profils, ou bien, maintenant que vous êtes assez connu, un déluge de candidats et candidates qui viennent vous voir pour bosser chez vous?
Alors, les deux, on a beaucoup, beaucoup de candidats, donc on est très fiers de ça. On a presque 10 000 applications spontanées par an.
10 000 ?
Ouais, ce qui est dingue. Hein.
Comment vous gérez ça ?
Je crois qu'on les regarde quasiment toutes. Hein. En tout cas, on a des outils pour filtrer très vite sur le profil et puis aussi sur les postes, parce qu'il y a des postes sur lesquels on est sollicité, sur lesquels on n'a pas de recrutement. Tout ça, c'est géré par des outils, heureusement. C'est comme un pipeline commercial. Hein.
Oui, bien sûr.
Et après, par contre, on fait aussi du démarchage ciblé sur des candidats. Et en fait, on a choisi de tout internaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne passe plus par des chasseurs. Je le dis aussi pour les gens qui seraient intéressés pour faire des propositions sur LinkedIn.
Voilà, écoutez
par
bien.
Jour, à peu près. en fait, on a internalisé complètement le recrutement des équipes par des recruteurs dédiés.
Qu'est-ce qui n'est pas encore optimal aujourd'hui? Et est-ce que vous avez eu des incidents, de la perte en ligne, des gens auxquels vous teniez qui sont partis ou que vous n'avez pas pu, malgré tous vos efforts et toute votre méthodologie, conserver dans l'entreprise?
Bien sûr, écoute, d'abord, on peut toujours tout optimiser tout le temps, hein, c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Là, aujourd'hui, on a quand même un modèle qui marche globalement bien. On a réussi à contenir aussi le churn et les départs.
C'est-à-dire la rotation des gens,
aujourd'hui, l'érosion. Ça se passe bien. On a vécu, je crois, deux époques un peu différentes. Hein. La première, donc, c'était l'apprentissage. On a appris à faire fonctionner une boîte en remote et... Bien sûr, on a fait des erreurs, bien sûr, on a fait des mauvais recrutements. On s'est raté à plusieurs reprises et on continue parfois à se rater. Genre, tout le monde fait des mauvais recrutements en même temps, que ce soit en remote ou pas. Mais c'est vrai qu'en remote, on est particulièrement plus anxieux parce qu'on fait signer un contrat à quelqu'un sans l'avoir jamais serré la main, sans l'avoir jamais vu. Donc, ça peut être un peu angoissant. Et on a évidemment fait des erreurs. On a eu deux périodes. La période 2015 à Covid.
Oui.
Ça a été une première période où c'était assez facile et on a été assez visible parce qu'on était peu nombreux.
Oui.
C'est ce qui a permis de créer une marque d'entreprises distribuées. Aujourd'hui, on est connu aussi pour ça.
Mmh.
On est connu parce qu'on fait des choses intéressantes sur le cloud. Et on est aussi connu parce qu'on a monté un modèle complètement 100% remote.
C'est quand même pas si fréquent parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont très fortement remote dans la technologie. Mais à ce point-là, moi, je
c'est juste,
peu.
C'est juste. Mmh. Et encore plus rare en Europe. Mmh. Et la deuxième période qui a été particulièrement difficile, ça a été Covid.
Oui.
Covid parce que nous... Bizarrement, en fait, on pourrait se dire, mais vous étiez hyper bien armé pour Covid. Et effectivement, on l'était, parce que tout le monde était déjà en distribué. Donc, le fait qu'il y ait une pandémie, que les gens puissent plus se parler en physique, être plus ensemble dans la même pièce, en physique, pour nous, ça n'a pas été un problème du tout.
Bien sûr.
Le problème, c'est que tout le monde est devenu, quelque part, une boîte remote. Mmh. Et notre différenciation sur l'attractivité des profils a progressivement disparu. Ce qui est intéressant, c'est que on est en train de vivre une troisième période où elle revient, parce que là, il y a un mouvement de balancier un petit peu inverse qui est en train de se profiler. Mais on a eu effectivement deux périodes. Et en 2021-2022, pour mettre les pieds dans le plat et te dire la grosse difficulté que j'ai eue, c'est qu'en fait, on était du coup beaucoup moins unique, notre proposition de valeur était moins unique, et on a eu énormément de concurrence sur nos ingénieurs qui ont été harcelés de propositions, avec parfois des propositions de salaire qui étaient deux fois supérieures à celles qu'on leur proposait.
Ah oui.
Et là, on ne peut rien faire.
C'est-à-dire que l'avantage compétitif que vous aviez en termes de masse salariale, tu me l'avais dit à l'époque, était quand même assez important, puisque tu m'avais dit que c'était environ 20% en moins, ce qui est quand même énorme, de masse salariale par rapport à un business équivalent, c'était ça.
Oui, je te prends un exemple. Tu vois, un ingénieur qui est dans la banlieue de Denver, il a beaucoup de mal à trouver une entreprise qui va l'embaucher.
Ouais.
Et parfois, on a des gens extrêmement bons.
Bien sûr.
Et nous, on n'avait pas du tout de problème par rapport à ça. Donc, c'est des gens qui sont très bons. On les paye à un prix de marché local. Mm-hmm. Et tout le monde est content. Et ça, c'était jusqu'à Covid. Sauf que pendant Covid, les boîtes de la vallée ont commencé à recruter partout aux États-Unis, avec les mêmes salaires que ceux de San Francisco.
Oh là,
et donc, plus de notion de marché local, en fait. Et là, ça a été très dur, parce qu'en plus, on avait des gens qui sont bons, qui comprennent ce que c'est que le remote et qui le pratiquent tous les jours depuis des années. Donc, ils étaient particulièrement attractifs. Et donc, là, on a vu une vague de départ pendant Covid qui a été super dur pour nous à gérer. Donc, on a réagi, on a réussi à canaliser le problème.
Les bons agis,
on a eu cette, ce qu'on appelait aussi le Great Resignation wave à un moment. Ouais. Donc, on a subi peut-être plus que les autres encore ce phénomène parce qu'on était déjà remote et parce que l'inflation sur les salaires était délirante.
Vous avez dû quand même avoir un impact sur votre compte d'exploitation puisque, encore une fois, l'avantage masse salariale a dû tendre à se réduire. Quel est-il aujourd'hui ?
Alors, il est toujours présent.
Ok.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les salaires de la vallée, mais il est moins fort, nettement moins fort. Donc effectivement, on a dû augmenter les salaires de façon significative.
Ouais.
Dans le courant de l'année 2021, d'ailleurs, on a choisi de rehausser les salaires pour être plus compétitifs. On n'est pas les mieux disants, mais on est compétitifs sur le marché et sur les rémunérations.
Une question que je me pose, c'est est-ce que ton modèle est applicable à tous les secteurs ? Par exemple, si je prends un secteur de New Space, où c'est super orienté projet, les gens passent leur temps à frotter leurs idées pour développer des softwares, de la mécanique, de l'engineering, etc. Est-ce que le modèle qui nécessite le fait de devoir confronter les idées constamment pour développer des choses, est-ce que tous les modèles se valent par rapport au travail à distance ?
Je suis convaincu que c'est applicable à tous les secteurs où l'enjeu, c'est de travailler ensemble et en équipe, et même s'il y a une dose de créativité dedans.
D'accord.
Ça aussi, ça fait partie des choses que j'entends régulièrement. Oui, mais en remote, on est moins créatif.
Voilà.
J'entends ça. Je trouve qu'il y a plein de façons de contourner ça et on l'a fait à plusieurs reprises. Ceci étant, j'insiste aussi sur un sujet, c'est que remote ne veut pas dire qu'on se voit jamais.
Oui, voilà.
Parce que dans l'esprit des gens, souvent, ce raccourci, il est un peu facile. C'est donc tout le monde à la maison tout le temps. Non. L'idée, c'est quand même qu'on est capable de prendre idéalement la voiture ou un train, plutôt un train, pour se retrouver quand on est localement en Europe et pour faire des workshops sur plusieurs jours.
D'accord.
Donc ça fait partie du modèle pour nous, de se retrouver régulièrement quand il y a besoin. Mais on peut tout faire franchement à distance aujourd'hui. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on mène les réunions, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on optimise notamment le processus de création. Mais je pense qu'on n'est pas moins créatif que d'autres entreprises aujourd'hui, avec notre modèle.
À quoi tu attribues le retour de balancier aujourd'hui dans la tech, avec les grandes entreprises qui disent « bon, il est temps de revenir au bureau au moins plusieurs jours par semaine ». Apparemment, les grandes entreprises de la tech, il y a quelque chose qu'elles n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre, quelque chose qu'elles n'ont pas compris. Qu'est-ce qui leur a échappé ?
Je ne sais pas si c'est des choses qui leur ont échappé. Je pense que de façon inhérente à leur modèle, il y a une dimension immobilière qu'il faut prendre en compte quand on voit la Salesforce Tower à San Francisco, qui est l'ensemble immobilier le plus cher de la ville.
Oui, c'est exact.
Quand on voit le campus de Meta à Palo Alto, enfin tout ça, c'est des investissements qui ont été absolument monstrueux et qui faisaient partie complètement de la culture de l'entreprise.
Ouais.
Et dont ils étaient fiers. Et je crois qu'ils n'ont pas du tout envie de complètement faire un trait sur ces investissements et que ça joue, que ça pèse vraiment dans la décision. Et puis, il y a une forme de contrôle retrouvé aussi à demander aux gens de revenir dans l'entreprise. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Le rapport de force offre-demande a changé.
Oui.
Pendant Covid, le rapport de force était pour l'offre de travail. Le balancier était du côté des salariés. Aujourd'hui, il est revenu du côté des employeurs. Il n'y a plus le Big Resignation, ça ouais. finit, c'est complètement passé.
Il y a eu accessoirement 200 000 licenciements en 18 mois.
Bah voilà, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau et qui cherchent du boulot là en ce moment. Donc en fait, ce retour de balancier fait qu'on revient un peu aux fondamentaux de la façon dont ces boîtes-là envisagent leur gouvernance. Et elles demandent à tout le monde de revenir au bureau et les gens n'ont pas leur mot à dire et ne peuvent pas refuser.
Comment ça va se stabiliser tout ça? Est-ce que dans la tech, est-ce que tu vois l'équilibre actuel perdurer ou bien tu penses qu'on va revenir plutôt vers du présentiel ou au contraire maintenir une très forte dose de travail à distance?
Je pense qu'il y aura un hybride assez sain. Ouais. On va tout trouver. On va trouver beaucoup plus de boîtes comme nous demain que dans le passé, parce que maintenant, c'est démontré que ça marche.
Et que ça peut scaler, comme on dit. Que ça peut monter à l'échelle.
Voilà, on a des salariés dans 35 pays, mais c'est aussi parce qu'on a des clients dans 70 pays. Et donc, aujourd'hui, quand tu veux faire de l'international de façon agile, c'est génial. C'est génial parce que tu déploies des équipes très vite, t'as pas de contraintes, t'es pas en train de te poser toutes les 6 mois la question de la taille de tes bureaux, ce qui était quand même, si tu te rappelles...
C'est un énorme problème.
Quand t'étais entrepreneur il y a 10 ans et que tu voulais monter une boîte de logiciels à l'international, tu passais un temps fou à manager les bureaux.
Ouais.
Là, on n'a plus de sujet. Tu peux augmenter à la vitesse que tu veux sans avoir ce type de problématique. Franchement, c'est fantastique. Ça ouvre... C'est une liberté une flexibilité qui sont rêvées pour les entrepreneurs. Donc, moi, je suis convaincu que ça va perdurer. Je suis aussi convaincu qu'il y a des cultures bureaux qui vont très, très bien et qui sont avec des boîtes très, très saines et qui laissent aussi beaucoup de latitude à leurs salariés. Et c'est très bien. Et on aura un mix de hybride, bureau first et remote first qui va se stabiliser.
Je pense
qu'il y aura un peu de tout.
Et plateforme.sh va... Rester sur son modèle.
Voilà, on est assez convaincus que ce modèle nous convient bien. Et donc, on n'envisage pas de revenir en arrière.
Très bien, Frédéric. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci à toi.
Voilà, je ne sais pas si vous travaillez dans un bureau ou à distance, mais je pense qu'en tout cas, cette discussion va vous donner quelques arguments pour convaincre votre boss des avantages du télétravail, si toutefois c'est votre préférence. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante contrôlef@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.